Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on explore des documents qui nous parlent d'un courant catholique traditionaliste, hein, vraiment très particulier.
Oui, un courant ultra minoritaire qui va jusqu'à contester la légitimité du pape Pie XII et parfois même Pie XI ou Saint Pie X.
C'est ça. On est au cœur d'une frange très radicale du cédévacantisme, ceux qui pensent que le siège de Pierre est vacant.
Et les sources qu'on a examinées, elles listent pas mal de griefs.
On parle d'une supposée compromission avec le judaïsme, de réformes liturgiques vues comme modernistes, de doutes sur le personnalisme, et puis il y a cette fameuse affaire du père Fainé.
Tout à fait.
Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ces critiques, pour essayer de comprendre les ressorts de cette dissidence. Alors, on y va?
Allons-y.
Bon, premier point qui frappe dans les textes. Cette accusation de compromission avec le judaïsme. Il est question de la gratitude du Congrès juif mondial envers Pie XII après la guerre. D'un don financier aussi. Comment ces faits, qui sont documentés, sont perçus par ces groupes?
Eh bien, c'est assez fascinant. Parce que ces gestes, qu'on verrait normalement comme de la charité ou de la diplomatie, tout simplement, eux, ils les réinterprètent complètement. Ils parlent d'un contrat tacite, une sorte de complaisance spirituelle envers ce qu'ils appellent l'ennemi de la foi.
Ah oui, carrément.
Oui, ils y voient du relativisme, une dépendance vis-à-vis des réseaux anglo-américains, c'est le terme utilisé. Bon, l'analyse fournie rappelle quand même, et c'est important, que la diplomatie ou les actes politiques d'un pape, ça n'engage pas son infaillibilité en matière de foi ou de mœurs.
Bien sûr, la distinction est essentielle. Alors, passons à un autre sujet brûlant, les réformes liturgiques. Et attention, on parle de celles avant Vatican II. Les documents citent la réforme de la vigile pascale, celle de la semaine sainte entre 51 et 56, l'assouplissement du jeûne eucharistique. Pourquoi ces ajustements posent tant problème?
Pour ces critiques radicaux, ce ne sont pas juste des ajustements, ce sont les premières brèches. C'est vraiment le mot qu'ils utilisent. Ils y lisent une sorte de sécularisation rampante, un abandon de l'ascèse, nécessaire selon eux. Et tout ça préparerait la déliquescence qui suivra le concile.
Donc le début de la fin, en quelque sorte.
C'est un peu ça, l'idée. Même l'encyclique Mediator Dei de 1947, sur la liturgie, est suspectée d'avoir amorcé le processus. Un processus qui mènerait, selon eux, à la messe dialoguée, à l'abandon du latin. Et ils pointent déjà du doigt des figures comme Monseigneur Bunini, qui était déjà influent à cette époque.
D'accord. Une lecture très orientée des événements. Et sur le plan doctrinal, il y a cette histoire de personnalisme. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, le personnalisme, c'est ce courant philosophique qui met en avant la dignité de la personne humaine. Et certains discours, depuis XII, notamment après la guerre, qui valorisent justement cette dignité, eh bien, ils sont interprétés par ces groupes comme une concession. Une concession dangereuse à l'humanisme démocratique, à l'individualisme moderne.
Un cheval de Troie idéologique, c'est ça?
Oui, c'est l'expression utilisée. Bon, la source qu'on analyse nuance quand même. Elle explique que ce personnalisme, s'il reste bien dans le cadre de l'anthropologie catholique, et s'il est subordonné au bien commun, il n'est pas problématique en soi.
Compris. Un autre point qui semble vraiment central, c'est l'affaire du père Léonard Fainé. Ce prêtre américain, excommunié en 1953, connu pour son interprétation très très stricte de l'adage « hors de l'Église, point de salut ». Quel rôle il joue dans cette controverse?
Ah, Fainé, c'est un personnage clé pour eux. Il est vraiment érigé en martyr de la vraie foi. Son excommunication par Pie XII est vue comme la preuve ultime, la preuve que le pape lui-même a basculé dans le modernisme.
D'accord.
Il faut quand même préciser que la position de Fainé, elle frôlait l'hétérodoxie. Notamment parce qu'il rejetait de façon très littérale le baptême de désir et le baptême de sang. Et les sources mentionnent aussi ces méthodes parfois jugées extrêmes et des positions qualifiées de non-conformistes, voire antisémites par la presse de l'époque.
Oui, des aspects assez sombres. Et cette radicalité, cette intransigeance, ça a dû créer des divisions même au sein de ce mouvement, non?
Les textes parlent d'une fragmentation importante.
Ah oui, tout à fait. On parle d'une radicalisation qui mène à une myriade de micro-chapelles. Surtout aux États-Unis, des groupes comme Our Lady's Resistance, qui finissent par s'anathématiser mutuellement. Le rejet devient presque une obsession.
Ils rejettent même Pie XI, c'est ça?
Exactement. Certains remontent même plus loin. La critique devient un peu autodévorante et on s'éloigne du simple discernement pour entrer dans une logique sectaire, clairement.
Bon, face à toutes ces accusations assez lourdes quand même, les documents qu'on a étudiés proposent aussi une défense de Pie XII. Quels sont les arguments principaux ?
Alors, les contre-arguments insistent sur plusieurs choses. D'abord, les réformes liturgiques. On souligne qu'elles étaient d'ordre disciplinaire, ça relève de l'autorité du pape, ce ne sont pas des ruptures doctrinales ou un mépris de la tradition.
C'est une question d'autorité légitime, en somme.
Voilà. Ensuite, le personnalisme de Pie XII est replacé dans son contexte, celui de l'anthropologie catholique et du bien commun. Et puis, point très important, on rappelle les limites de l'infaillibilité pontificale. Elle ne couvre pas tout. Elle ne couvre pas la géopolitique, les choix de gouvernance.
Oui, l'infaillibilité n'est pas l'impeccabilité.
Exactement. Ce n'est pas parce qu'un pape prend une décision politique discutable qu'il cesse d'être pape ou qu'il trahit la foi sur le plan doctrinal. Enfin, Pie XII est présenté comme un défenseur clair du dogme catholique, mais aussi comme un pasteur qui a dû faire face à des défis immenses. La guerre mondiale, le communisme, la modernisation.
D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, cette critique virulente de Pie XII, venant de ces milieux très spécifiques, elle relèverait moins d'une analyse théologique rigoureuse que d'une... une forme d'anxiété.
Une fixation sur une époque idéalisée.
C'est un peu la perspective que suggère l'analyse, oui. Il y aurait une confusion entre la fidélité et le fixisme, entre la vigilance et la suspicion généralisée. L'idée défendue, c'est que l'Église est une institution vivante, pas un musée. Elle peut donc adapter certaines de ses pratiques sans pour autant trahir le dépôt de la foi.
Voilà qui nous offre une exploration intense d'une position théologique vraiment très particulière et peuponnée. Et tout ça nous amène peut-être à une question plus large qui dépasse ce cas précis. Où est-ce qu'on situe la frontière entre la préservation fidèle d'une tradition et puis une forme de conservatisme qui la figerait au point de la rendre stérile? C'est une question fondamentale, en effet. La source conclut en suggérant que le véritable traditionalisme ne réside pas dans la muséification du passé. Et elle met en garde ces positions ultra-radicales, même si elles partent d'une intention de pureté, eh bien elles peuvent paradoxalement finir par caricaturer et affaiblir la tradition qu'elles prétendent défendre.
Une pensée intéressante pour conclure notre analyse d'aujourd'hui.
Tout à fait. De quoi méditer.